créé à la suite des événements de 1968. Après 68, ça s'est pas terminé en juin 68, contrairement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, de grèves, de revendications, etc. Et le petit monde fraternel de l'entreprise, du patronat, s'est un peu inquiété et on s'est mis, les patrons se sont mis à cotiser dans cette entraide professionnelle des métiers de la métallurgie qui a été créée donc en 1972, regroupant 1800 entreprises pour faire face à un conflit collectif du travail. Ça a très très bien marché, très très bien marché, les cotisations sont arrivées, on a indemnisé les PIM à indemniser les entreprises qui étaient en but à ces énergumènes, toujours en train de réclamer, mais petit à petit, bof, les revendications, les luttes et les grèves se sont amenuisées, si bien qu'il est resté un solde positif dans la caisse de l'EPIM. Et puis, comme c'est des gens qui connaissent assez la finance, malgré tout, eh bien, ils ont judicieusement placé cet argent, si bien que c'est arrivé à 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Enfin, on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas très bien quelle est la légitimité de ces fonds. Et puis, qui en dispose et à qui ils sont attribués. C'est l'objet de l'instruction actuelle. La question est, effectivement, qui revient tout le temps, c'est à qui, puisqu'il s'agit de lobbying, à qui ces fonds ont-ils été attribués? Alors, indépendamment des soutiens aux entreprises affectées par les mouvements sociaux. Éric Decouty, ancien du Figaro et aujourd'hui à Marianne, à l'hebdomadaire Marianne, nous éclaire sur le financement.
Alors, vous nous parlez de financement possible de syndicats, possible de parlementaires. Dans le dernier numéro de mars 2007 de Marianne, vous faites un entretien avec une personne qui étaye un petit peu ses suspicions.
Alors, si vous le permettez, ouais. Deux choses. D'une part, sur le financement de syndicats, je vous dirais, c'est le patronat qui l'a dit. Et globalement, le patronat de l'UMM a pris cet argument, a présenté cet argument comme un argument de défense, et la presse, dans son intégralité, et probablement moi aussi, hein, mais en tous les cas, les médias ont fait de cet argument de défense une réalité d'enquête judiciaire. Donc, il faut peut-être être beaucoup plus pondéré sur le financement syndical. Deuxièmement, la piste du financement politique. On a démontré, en reprenant des débats publics, que depuis 2000, il y avait toute une série d'amendements qui étaient proposés par l'UMM et défendus par des parlementaires. Je ne parle pas d'argent, je dis simplement que, je vais vous prendre un exemple, il y a un député qui vit à l'Assemblée nationale en 2000, je crois que c'est en 2002, et il propose un amendement. Et le ministre des Affaires sociales de l'époque, qui est François Fillon, qui lui dit, écoutez, monsieur le député, il faut arrêter, on va retirer cet amendement parce qu'il est trop favorable à l'UMM. Et ça, c'est dans les minutes de l'Assemblée nationale. Et on découvre que à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il y a tout un tas de textes qui sont vendus, promus par le patronat de la métallurgie et ensuite portés par des parlementaires.
Ce que vous suggérez là, c'est que c'est peut-être pas uniquement la force de conviction des propositions de l'UMM qui ont permis à ces propositions d'amendement d'arriver jusqu'à l'hémicycle.
Alors, ça c'est la deuxième étape. Première étape, encore une fois, alors eux ils disent c'est du lobbying. On a vu une lettre de M. Gauthier, du lobbying tout à fait transparent. Premièrement, il n'est pas tout à fait transparent, pas aussi transparent que ça, et deuxièmement, c'est quand même troublant. C'est d'autant plus troublant, et là on va arriver à l'entretien qu'on a produit, c'est qu'il y a au moins un exemple, connu et incontesté, d'amendements au Sénat en 2004, c'est pas des textes qui ont été proposés par l'UMM. Les amendements avec l'en-tête du Sénat, avec la bonne calligraphie, étaient rédigés par l'UMM elle-même.
Ils ont même le papier en tête du Sénat, quoi.
Ils avaient, les amendements tels qu'ils ont été produits avaient l'en-tête du Sénat, la bonne calligraphie, la bonne mise en page, etc. Ça a été révélé en 2004, à l'époque c'est passé totalement inaperçu, mais c'est extrêmement troublant. Et nous avons recueilli le témoignage d'un collaborateur de M. Jacques Pelletier, sénateur, ancien ministre de Raymond Barre, et de Jacques Chirac, qui m'a expliqué que ces amendements-là avaient fait l'objet de contreparties financières. Voilà. Ce qu'on soupçonnait tous de...